Il entre dans l'Église, au fond, en 1906, on est au lendemain du vote de la loi de séparation entre l'Église et l'État, dans un contexte quand même très difficile, le moment où l'Église se trouve attaquée de tous côtés en France, persécutée même, mais aussi dans une période marquée par ce qu'on appelle la crise moderniste dans l'Église, donc par cette opposition très dure, très forte entre l'Église et la modernité, entre le magistère de l'Église et certains de ses théologiens et de ses intellectuels. Et c'est au lendemain de sa conversion, il va découvrir l'œuvre de saint Thomas, la Somme théologique, et à partir de là, il va devenir le grand penseur que l'on connaît du renouveau de la pensée thomiste au XXe siècle dans l'Église. Puisqu'à partir de ce moment-là, il va essayer de penser d'une manière nouvelle les rapports entre ce qu'on pourrait appeler le spirituel et le temporel et tous les grands ouvrages qu'on lui connaît, à commencer par « Humanisme intégral » qu'il publie en 1936, vont au fond être issus de cette réflexion qu'il va commencer à mener à partir du début des années 30.
Alors justement, vous parlez de cet ouvrage « Humanisme intégral ». Qu'est-ce qui fait la force et l'importance de cet ouvrage pour la pensée de Maritain, mais pour la pensée chrétienne plus généralement ?
Il essaye de montrer qu'il il faut dépasser au fond la nostalgie de la chrétienté médiévale et qu'il faut repenser les conditions d'insertion du christianisme dans le temps présent d'une manière nouvelle, tout en maintenant formellement et fermement cette idée d'une nécessaire subordination du temporel au spirituel, qu'exprime l'idée même de chrétienté au fond. Il y a l'idée qu'il faut aussi intégrer les valeurs de la modernité, ces idées chrétiennes devenues folles, comme il dira, elles sont la liberté, l'égalité, la tolérance, etc. Donc il parlera et il tracera, il proposera l'idéal d'une chrétienté, d'une nouvelle chrétienté, d'une chrétienté profane, dira-t-il. Et c'est ce terme qui fera beaucoup de difficultés dans certains milieux ecclésiastiques, et non plus sacral comme au Moyen-Âge. Donc c'est aussi une critique implicite, et même explicite, très très dure et très ferme, des totalitarismes qui se développaient à l'époque et qui tendaient au contraire à vouloir resacraliser la politique, le temporel. Les historiens présentent volontiers aujourd'hui le fascisme, le nazisme et même le communisme comme des religions politiques, comme des tentatives de resacralisation de la politique. Donc l'ouvrage de Maritain qui propose une chrétienté profane est une critique très forte, très pertinente de cela, et c'est pour cela que le livre, à peine sorti, aura un succès extraordinaire dans les milieux catholiques. Il sera traduit dans plusieurs langues. Il deviendra une sorte de petit livre rouge pour toute une nouvelle génération de catholiques, celle-là même qui s'est formée donc dans les années 30 et qui arrivera aux responsabilités au lendemain de la guerre et qui proposera, qui tentera au fond d'actualiser, de réaliser cet idéal de la nouvelle chrétienté selon Maritain.
Maritain serait le précurseur d'un humanisme qui va déboucher sur le personnalisme en philosophie et sur la démocratie chrétienne en politique.
Oui, on peut dire ça dans la mesure où bon nombre de dirigeants des partis démocrates chrétiens qui naissent donc au lendemain de la guerre, sur les décombres du fascisme et du nazisme, se sont réclamés de Maritain, de son influence, etc., notamment de cet ouvrage « Humanisme intégral », mais aussi de ses écrits de guerre, parce qu'il faut dire qu'à partir de 40, il est contraint, de sa femme étant juive, de s'exiler aux États-Unis, et à partir de là, il va devenir l'une des grandes voix de la résistance spirituelle au fascisme, au nazisme, et il va publier des ouvrages tout à fait fondamentaux, comme « Christianisme et démocratie »,« Les droits de l'homme et la loi naturelle », qui au fond lui permettront de réinterpréter cette idée de nouvelle chrétienté dans un sens plus démocratique, plus libéral, et c'est ce qui fera le grand succès de ses écrits au lendemain de la guerre. Mais on peut noter aussi d'ailleurs une convergence assez grande avec les grands enseignements de guerre de Pie XII, notamment son radio-message sur la démocratie de 1944, où on peut noter une grande proximité avec les thèses de Maritain, une grande consonance, j'allais dire. Cette idée qu'au fond, la démocratie est d'essence évangélique, est un système de valeurs tout à fait conforme aux exigences les plus profondes de la morale chrétienne, et que parce que d'essence évangélique, elle a besoin de l'inspiration évangélique pour subsister. Pie XII ne dit pas autre chose. Et j'allais dire, tous ses successeurs ne diront pas autre chose jusqu'à Benoît XVI.
Alors la pensée de Jacques Maritain a influencé la philosophie du personnalisme, elle a influencé la politique démocrate chrétienne. Est-ce que sur le plan strictement religieux, elle a trouvé une concrétisation, un aboutissement dans le Concile de Vatican II ?
Maritain a sans doute été un des grands précurseurs du Concile Vatican II, notamment pour tous les enseignements du Concile qui concernent précisément les relations entre l'Église et le monde, la Constitution Pastoral Gaudium et Spes, le décret sur l'apostolat des laïcs, la déclaration sur la liberté religieuse. Et là, il y a une inspiration maritainienne très forte. On a pu parler même d'un langage maritainien. Hein. Il ne faut pas oublier que le pape Paul VI était un disciple de Maritain. Hein. Il a été l'un des premiers à traduire, sinon le premier à traduire l'un de ses ouvrages en italien, le « Trois réformateurs » en 1928. Et qu'au lendemain de la guerre, ils se sont connus, fréquentés beaucoup lorsque Maritain était ambassadeur auprès du Saint-Siège, nommé d'ailleurs par le général de Gaulle. Et Montini, futur policier, était lui-même substitué à la secrétaire d'État. Donc les contacts étaient pratiquement quotidiens. Et à la fin du concile, Paul VI consultera Maritain sur des points bien précis, et notamment sur la question des laïcs et de la liberté religieuse, lui demandant même d'écrire son point de vue, ce qu'il fera dans quatre mémoranda qui seront remis au pape et qui, en tout cas pour ce qui est du texte sur la liberté religieuse, auront eu, selon moi, une grande influence. L'idée qu'au fond, la liberté religieuse doit être comprise comme un droit inhérent à la personne humaine, fondé sur la dignité de la personne humaine, mais qui doit être compris comme un droit par rapport à l'État et non par rapport à Dieu. La personne reste un devoir, au fond, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vérité. Elle doit rechercher la vérité, mais elle doit le faire librement, sans que cela lui vienne imposé par une autorité extérieure comme l'État. Et je pense que ce point de vue-là a été décisif, qu'il a permis de débloquer la situation et permettre l'adoption de ce qui est quand même, qui reste un des grands textes de Vatican II.